Bonjour à chacun, bonjour à chacune. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Et Noël, c'est une occasion de passer du temps en famille. Et quand on a l'occasion de aussi de passer du temps avec des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui sont de milieux différents. Là, ce Noël, j'ai pu passer hier. J'ai pu passer du temps avec quelqu'un qui n'était pas de ma famille et qui n'avait pas forcément un arrière-plan chrétien. Et ça a été un vrai plaisir. Et c'est toujours un privilège de pouvoir passer du temps avec des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois de regarder un frère, une sœur, et de se dire, lui, il est trop différent. On ne pourra jamais s'entendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, à moi aussi. Et c'est triste. C'est triste. Et en fait, on a cette fichue tendance à regarder le monde comme étant le centre de notre propre personnalité. Imaginons juste un instant que Jésus aurait fait ça avec nous. Ça pèse, hein? On serait fichu, en fait. Car on ne peut pas faire plus différent de nous que Jésus. Hein. Lui qui est saint, nous sommes pécheurs. Nous sommes pourris par le péché. Et pourtant, Jésus est venu. Il est né dans une culture hébraïque, avec une foi en Dieu déjà établie dans son pays. Il veut être ami avec le monde entier. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Un homme simple qui est né dans un tout petit village, dans un tout petit pays. Moi, avant, j'habitais en Lorraine et on disait qu'Israël, c'était plus petit que la Lorraine. Donc c'était vraiment un tout petit pays, pourtant que Dieu avait béni. Et il est devenu, il était déjà le plus grand homme de toute l'humanité, de toute l'histoire de l'humanité, qui va être en communion avec le monde entier. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme saint qui a voulu enlever la frontière qui nous sépare de lui. C'est l'histoire vraie du Messie juif qui est offert pour le monde entier. Voilà, fin de la prédication. Non, je plaisante. On va lire en Matthieu 1, je vais juste lire le verset 2. Hein. Enfin, non, le verset 2. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères. Et là, j'ai lu le verset 2, mais on va aussi voir le verset 1. En fait, Matthieu, dans son évangile, il met l'emphase sur l'accomplissement des prophéties. C'est un évangile, en fait, qui est très juif. Parce qu'au premier verset, il dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Et si on se met dans les pieds d'un Israélite, ça sonne vraiment très juif. Il y a tout un arrière-plan culturel, un arrière-plan historique dans ces quelques mots seulement. Et en fait, c'est le verset qui dicte le ton de tout l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, on va faire un rapide survol de l'évangile de Matthieu, pardon, pas Jean. Et en fait, l'Ancien Testament nous dit précisément que le Messie sera de la descendance de David. On nous donne aussi son lieu de naissance. On précise aussi qu'il naîtra d'une vierge. Il sera amené en Égypte. Et encore une foison de détails, de prophéties très précises qui ont été données pour certaines 8 siècles avant Jésus. En fait, le Messie, Jésus, il est la prophétie, à proprement parler, la parole de Dieu, cette chair. Et dans cette généalogie de Matthieu 1, versets 1 à 17, on voit quelques pépites et les prémices du message de Matthieu concernant l'internationalité de Jésus. Et dans cette généalogie, on va voir deux exemples. J'ai oublié de mettre les... Voilà, excusez-moi. Et en fait, donc, comme j'ai lu le verset 2, Abraham, on voit qu'il est cité dans ce verset. Et c'est au tout début de la généalogie. Est-ce que vous saviez que Abraham était d'une famille d'adorateurs d'idoles? Son père, Terah, était un adorateur d'idoles. Et que Abraham lui-même était un adorateur d'idoles. Et à son époque, il n'y avait pas un peuple de Dieu comme il y allait avoir après. En fait, malgré tout, il s'est converti, il a obéi à Dieu, alors qu'Abraham est étranger à Dieu. Et en fait, on voit que l'obéissance à Dieu était sa souche, son identité, surpassait son identité nationale et familiale, il est devenu un adorateur de Dieu. Il bénissait même les pays par lesquels il passait. Il avait une vie de nomade, et il a implanté des hôtels, certains lieux où il passait. En fait, c'était une sorte d'apôtre avant l'heure, Abraham. Et plus tard, il allait devenir celui qu'on appellera le père des croyants. Et en fait, on voit déjà le plan de Dieu pour toutes les nations en Abraham. Et Dieu avait prévu cela, un plan de sauvetage, puisqu'il lui a dit, en Genèse 12, 2, 3, je lis, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » En fait, on devient enfant de Dieu par la foi au Dieu unique, par la même unique foi qu'avait Abraham. Et l'exemple d'Abraham nous montre qu'en fait, n'importe qui, n'importe quel pays peut venir à Dieu et recevoir la foi qui est le don de Dieu. Et dans la généalogie, on trouve aussi une dame qui s'appelle Ruth, et qui n'est pas de famille croyante, ne descend pas d'Abraham, et là on monte encore d'un cran, parce qu'en fait, elle venait d'un peuple qui était ennemi des Israélites, qui était le peuple de Dieu, de la descendance d'Abraham. Et en fait, Ruth, c'est un peu le genre de personne avec qui on se dit, j'ai aucun point commun. Et avec qui on n'a pas envie d'avoir des choses en commun. Et Ruth, en fait, elle s'est convertie en suivant sa belle-mère. On avait fait une série sur Ruth en décembre dernier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle s'est mariée avec un Israélite et elle est devenue l'arrière-grand-mère du grand roi d'Israël, David. Et en fait, ce pointage vers David, aucun roi local n'a pu égaler par la suite, laisser place à quelqu'un encore plus grand que lui. Jésus, Dieu fait homme, le roi des cieux, qui un jour est né pour sauver toutes les nations, et un jour installera son règne sur toute la terre de manière définitive. En fait, Jésus en Israël, c'est comme le tronc d'un arbre, vous voyez? Dans le jardin d'Israël, si je puis dire, c'est une illustration, hein. Que des personnes d'autres pays pouvaient venir voir. Et en fait, avec le temps, ce tronc a grandi et son feuillage s'est répandu sur les nations. Il a étendu son feuillage. Et Jésus était cet arbre. Le feuillage s'étend. Les nations. Peut étendre sa présence dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Dieu peut faire de nous des Ruth et Abraham. Dieu nous a choisis parmi les nations, étrangers aux promesses de Dieu. Il avait fait de nous des sources, et de nous des sources de bénédiction pour les autres. Dieu comporte du fruit dans nos ministères. Et même si, comme Ruth et Abraham, pas de famille croyante, ce n'est pas nos origines, termine le fruit de nos ministères. Ça ne tient pas à nous, par son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui fait le travail. C'est quelque chose qui est rassurant. Que nos fruits, par l'esprit de Dieu, peuvent avoir une portée au-delà même de ce qu'on peut imaginer, et peut-être qu'on ne voit pas. Quand on veut avancer dans la foi, c'est par la foi, la volonté. Et on voit la preuve avec les mages d'Orient. Jésus était attendu par des étrangers. Je vais vous lire Matthieu 2. Alors, ce sera très court, Matthieu 2, parce que on l'a beaucoup lu ce mois-ci. Je vais juste faire un très rapide sur ce passage. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Et des mages, en fait, sont venus voir Jésus à l'époque où il n'y avait pas les jets. Ils ont marché plusieurs centaines de kilomètres avec ferveur pour voir celui que Dieu a montré, a guidé au travers de la comète, j'avais dit ça la semaine dernière. Et en fait, ces mages, ces scientifiques, nous montrent que l'étude de la création de Dieu, science, doit nous amener à Jésus. On l'a vu la semaine dernière. Dieu, il se révèle à tous les hommes par sa création, et par conséquent, aucun homme sur terre, de quel pays, n'a aucune excuse pour pas reconnaître son péché, comme on voit dans Romains 1 et 2. Et au verset 11 du chapitre 2, ils entrèrent dans la maison, les mages, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors, ils offrirent des cadeaux et de l'or, de l'encens. Les mages, en fait, ils ont été accueillis. Les étrangers ont été accueillis par les parents de Jésus. Ça montre l'accueil que Dieu veut pour des gens de tout. Il veut venir, laisser venir à lui personne de tous les. Et quand on voit l'accueil qu'avaient Marie et Joseph pour des étrangers, on peut se poser la question, est-ce que nous, nous sommes accueillis? En Lévitique, chapitre 19, versets 33 et 34, il dit « Si un étranger vient séjourner chez vous, dans votre pays, ne le maltraitez pas. Vous traiterez l'étranger, en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous, vous l'aimerez comme vous-même. » Et en fait, dans l'histoire des rois mages, c'est l'inverse. Qui... Des étrangers venir à nous. C'est l'étranger. Et trop souvent, on n'aime pas être mis en face de personnes différentes de nous. Et Jésus veut vraiment changer le cœur de tout. Et cette histoire, elle est là pour nous montrer que tout. Quelque chose que nous, les chrétiens, souvent, on croit qu'est déjà acquis. On a besoin aussi d'être secoué à ce sujet. Même si on savait déjà que la venue de Jésus, que le Messie, était prévue pour toutes les nations, comme on voit à maintes reprises dans Genèse, en passant par des prophètes comme Esaïe. Jésus est venu pour. On va lire Matthieu chapitre 8, quelques versets. Sur du verset 5 au 13. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. » Et je dis à l'un, « Pars, et il part. » À un autre, « Viens, et il vient. » et mon esclave fait ceci, le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé d'aussi grande foi. » Il déclare, « Beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais Jésus dit à l'officier, vas-y et sois traité conformément à ta foi. Et au moment même, le serviteur fut guéri. Dans ce texte, nous voyons un officier romain, païen, qui faisait partie de la colonisation romaine, venir à Jésus. Il faut savoir qu'il y avait vraiment de la haine des Israélites à l'égard des Romains, parce que les Romains, ils opprimaient et les Israélites. On est dans un contexte un petit peu difficile, national, ethnique, si je veux dire. L'officier appelle Jésus pour guérir son serviteur de sa paralysie. Et Jésus répond positivement et guérit son serviteur. Et au verset 8, on voit que l'officier étranger confesse son indignité, péché devant le maître d'Israël. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et au verset 17-13, il dit que Jésus admire la foi de l'officier, que tout type de personnes peuvent venir. Royaume, et que ceux qui avaient pour destiner le royaume, c'est-à-dire les Juifs, ils n'acceptent pas le Messie. En fait, Jésus, ici, il a admiré la foi de quelqu'un confié à lui, pourtant était détesté par ses semblables. Jésus nous appelle à aimer et à bénir ce que nos semblables l'habitude de déteste. Si vous avez vu le film Le Silence de la mer, il n'y a que moi qui regarde des très vieux films. C'est un film qui date de la fin des années 40. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune soldat allemand, nazi. Et en fait, les nazis prenaient des jeunes et ils étaient embrigadés de force pour servir le régime nazi. Et lui, du coup, il est un petit peu a pris de force à servir, quoi, contre cœur. Et en fait, il a été envoyé en France dans une famille logée dans une famille de résistants. Les résistants étaient obligés de loger un soldat nazi. Et ce soldat n'était pas forcément nazi dans son cœur. Il était content d'être en France parce qu'en fait, il adorait la culture française. Il aimait beaucoup la France. C'était un rêve depuis son enfance de visiter la France. En fait, il était vraiment, pour lui, c'était un rêve qui devenait réalité, quoi. Et malgré tout, il était détesté par ceux qui le logeaient. Et il tentait à chaque fois une communication en vain. C'est pour ça que le film s'appelle Le Silence de la mer. En se pesant qu'il était là, pas c'était les Français. Et en fait, celui qui veut entendre le cœur des étrangers, mais leur parle. Même de ceux qu'on croit être des persécuteurs, des ennemis. Comme vous le savez, Jésus, il regarde au cœur et non à l'apparence. Il touche le cœur ceux qui reconnaissent. Jésus a dit en Matthieu 9, versets 12 et 13, et Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie, je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Et que nous soyons. Voyons chacun. Chaque personne comme des gens malades, péchés, et qui ont besoin d'être guéris par l'Évangile. En fait, c'est un péché de se dire, il est trop pas, il est. Lui, il peut pas voir l'évangile endurci, ou différent de moi. Différence, mais. Ouais, ça. Peut-être que si on se dit ça d'une personne, peut-être qu'il viendrait à Jésus. On voit clairement dans le texte que le projet de Dieu donnait le salut à tout le monde. En fait, Jésus est le salut universel chaque jour de sa vie. Même sa vie entière pointée vers la grande mission de l'Église. Nous pouvons la vivre. Et là, vous voyez arriver, je vous citer Matthieu 28, qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et en fait, c'est la toute fin de l'évangile de Matthieu. On a vu le premier verset, là on voit la toute fin. Dernier passage, on voit tout le plan de sauvetage. Présenté par les grands sauveteurs de Jésus. Il ne se limite pas à des frontières géographiques et au regard porté sur des gens différents. En fait, Jésus n'a pas tout à fait la même conception des frontières que nous. D'ailleurs, vu du ciel, les frontières n'existent pas. Dieu n'a pas créé le monde avec des frontières. Elles sont venues en conséquence du péché avec la tour de Babel. Et la seule frontière dans le monde, selon l'esprit, dans le monde spirituel, c'est celle qui nous sépare de Dieu à cause de notre péché. Et Jésus veut sauver du péché toutes les régions, tous les patrons, toutes les cultures et toutes les sous-cultures, autant ceux de culture chinoise, de aztèque. Les langues. Autant de ceux qui parlent d'une manière sophistiquée, de ceux qui parlent un langage de la rue, ceux qui parlent un langage, d'être artiste. On fait partie d'une mission, ça s'appelle Metal Mission. Et nous, en fait, on va annoncer l'évangile au Hellfest, au festival de métal en France. Et en fait, on vient apporter le message de l'évangile dans cette. Et on n'est que des personnes qui sont au milieu métal, qui aiment le métal. Et on s'incarne au milieu de cette culture pour pouvoir adapter. Après, on ne sait pas le message de l'évangile, mais on s'incarne comme Jésus s'est incarné pour nous. Il s'est incarné sur terre, et c'est une condition humaine. On fait pareil pour pouvoir apporter le message de l'évangile. Incarné pour nous. Et cette vie éternelle, elle surpasse toute forme de catégorisation humaine et sociale pour l'offrir à ce que Dieu a choisi. En fait, c'est le magnifique feuillage que l'arbre s'étend sur chacun et qui nous. Pour terminer, pour prendre l'illustration de l'arbre, le tronc de l'arbre, premier verset de l'évangile, commence par un ton très juif. Présente Jésus comme le fils de David et d'Abraham. Se termine par un grand feuillage. Par des disciples. Et Jésus, en fait, en voyant le communautarisme exhibé publiquement, constate que les frontières nous caractérisent. Et malheureusement, cette tristesse qu'on constate, ça a aussi cet communautarisme aussi parfois dans nos églises, parfois même non, tendance à se catégoriser dans culturel. En fait, les frontières, elles sont dans notre tête, elles viennent de notre cœur mauvais. C'est notre cœur mauvais qui nous envoie en enfer, de l'autre côté de la frontière de la présence de Dieu. Notre cœur mauvais. Et des catégories entre les pro-vax, les anti-vax, entre les non-charismatiques, charismatiques, entre les blancs et les blancs. pauvres, et ainsi de suite. C'est très fort. Finalement, on se crée des catégories pour se sauver soi-même, finalement, d'une certaine manière. Mais la réalité, c'est que c'est un processus de perdition. Car on se monte un système de sauvetage par soi-même que de compter le sacrifice de Jésus. Un tour renversé. On va être au contraire caractérisé par Christ, pas ses frontières pour nous auto. Jésus est descendu du ciel pour anéantir les murs de séparation qu'on se crée entre nous. Car Jésus seul peut nous faire monter. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on vit dans une société communautarisme monte en flèche. Les communautés se montent les unes. Jésus, la solution. A besoin pleinement le. La lumière. Prenez garde. Je ne prêche pas universaliste. Je ne prêche pas un universaliste humaniste. Mais le règne universel. Le roi de monde pour régner dans le cœur de chaque être humain, afin de renverser les divisions qu'on se crée les uns avec les autres. Demander à Dieu pour qu'il puisse transformer nos pensées et nos frontières mentales. Peut-être que certains d'entre vous vous sentez indignes de venir à Christ, car vous vous sentez différent. Et c'est vrai, vous êtes indignes. Non pas à cause de vos différences, la réalité. Ça, c'est le cas de tout le monde, en fait. Hein? Tout le monde est indigne. Rien ne nous accepte. On doit renoncer à notre vie de péché, se mettre sous l'abri du feuillage qui est mort pour nous. Et comme c'est dit en Matthieu 26, 28, il a versé son sang. Amen. D'être venu il y a 2000 ans et le plan de sauvetage merveilleux. Je prie pour que tu puisses donner encore plus confiance à grandir en conscience de ce plan de sauvetage que tu as accompli pour les nations. Que tu te prie de d'enlever en nous nos frontières mentales, des barrières qui t'empêchent de vivre la communauté, croyant, d'être une lumière des nations. Je te recommande. Merci Seigneur parce que tu as versé ton sang. Beaucoup de gens. Tu as versé ton sang. Évangile, bonne nouvelle.